Alors, on va dire un mot de prière, puis on va commencer. Père éternel, nous voulons, Seigneur, nous arrêter, premièrement, venir dans la prière pour se recueillir devant toi, reconnaître ta présence au milieu de nous, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci pour les personnes qui se sont levées ce matin, qui sont venues pour étudier la parole. Merci pour l'Église qui est en train de s'assembler pour venir te célébrer. Merci pour les deux beaux baptêmes que nous allons avoir tout à l'heure. Seigneur, nous tournons les regards vers toi, remplis d'espérance en toi, Seigneur. Viens nous enseigner un peu plus ce matin encore à nous lancer dans cette aventure de faire des disciples, Seigneur, alors que bien souvent, nous-mêmes, en se regardant dans le miroir, on ne se sent pas digne de prétendre enseigner à quelqu'un comment être un disciple de Christ. Nous voulons, Seigneur, par obéissance, marcher à ta suite, puis communiquer ce que nous avons reçu d'autres personnes et de ta parole, Seigneur. Alors, bénis-nous ensemble ce matin, c'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on a un gros mandat ce matin, et je vais juste partir ma petite minuterie. On doit compléter la leçon 6. Si vous avez votre leçon 6, vous pouvez la prendre avec vous. Et puis, couvrir ensemble la leçon 7. C'est assez ambitieux. La semaine dernière, on a commencé cette conversation-là sur la centralité de l'Évangile dans la formation de disciples. Et puis, je me demande si quelqu'un oserait essayer de nous faire un résumé. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la formation de disciples centrée sur l'Évangile? Puis, il n'y a pas de malaise si j'ajuste un peu vos réponses ou si... au pire, c'est Alex qui va répondre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut s'essayer. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la formation de disciples centrée sur l'Évangile? Ou peut-être, des fois, c'est plus simple de le dire comme ça. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ça serait quoi faire de la formation de disciples qui ne serait pas centrée sur l'Évangile? Puis, il n'y a pas une seule bonne réponse, il y en a plusieurs, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de lire la petite plaquette de C.J. Mahaney, « Une vie centrée sur l'Évangile »? Ça va vous aider à avoir la réponse à ça, de manière assez développée. Alex, veux-tu nous résumer ça dans tes mots? Ça serait quoi faire de la formation de disciples centrée sur l'Évangile? Effectivement.
Je pense que ce que je veux dire, ça s'applique les deux. Mais c'est de se rappeler que sans Christ, on ne peut rien faire. Donc, on est centré sur le fait qu'à cause de nos péchés, on avait besoin d'une réconciliation avec Dieu. Puis c'est Christ qui a tout accompli ça. Donc, en Jésus-Christ, maintenant, par son esprit, j'ai la possibilité de faire des disciples, d'être transformé moi-même pour aider d'autres à être transformés. Donc, c'est regarde à Christ, dans le fond, comme notre modèle et comme celui qui nous permet de vivre selon ce modèle-là. On transmet, dans le fond, la ressemblance à Christ à d'autres.
Fait que peut-être un mot qui ressort de ce que Alexandre a mentionné, c'est notre identité. Je le mettrais comme ça. Donc, si je veux le résumer en un mot, lorsque je suis centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, je reviens constamment à ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Puis la semaine dernière, la manière que j'ai introduit cette question-là, c'est en mentionnant Tim Keller qui dit qu'on est tous par défaut des êtres religieux. Par défaut, quand on dit religieux, il faut faire attention, même le mot religion, il y a une religion qui est selon Dieu, nous dit Jacques, hein? qui est vraiment une piété selon Dieu. Mais quand on parle de religieux, on veut dire des gens qui essaient de se présenter juste devant Dieu, qui par leur piété, par leur discipline spirituelle, par leur repentance, par leur pratique spirituelle, essaient de se présenter juste à Dieu. Maintenant, pour devenir chrétien, ça demande premièrement de reconnaître qu'on n'y parviendra jamais. Puis, ce que Keller et plein d'autres soulignent, c'est qu'en réalité, un chrétien n'a pas nécessairement abandonné ou perdu le réflexe d'être une personne religieuse qui essaie de se présenter juste par elle-même devant Dieu. C'est pas parce que je crois dans l'Évangile de Jésus-Christ pour me convertir, puis que je comprends que j'ai besoin de son œuvre à la croix pour être pardonné de mes péchés, que je saisis à ce moment-là profondément, réellement, que qu'on vient de me donner une nouvelle identité. Ma nouvelle identité est en Jésus-Christ. Je suis caché en lui, pas seulement pour le pardon de mes péchés, mais pour marcher à tous les jours dans la grâce, pour marcher à tous les jours dans la sainteté. Fait que quand tu ne saisis pas ça, il va y avoir une espèce de déformation de ce que c'est être un chrétien. Puis on peut aller dans toutes les directions. Certains vont être très, très, très laxistes. Ils vont mettre tout l'accent sur le fait qu'on est sauvé par grâce, tous nos péchés ont été pardonnés. Puis ça les amène à se laisser aller même dans le péché, à cesser de lutter pour marcher dans la sainteté. Puis Paul dit, on ne fera pas ça, au contraire. Au contraire, on ne va pas se laisser aller dans le péché, on va vouloir marcher dans la sainteté. Mais d'autres vont aller de l'autre côté. Puis je vous dirais que ça va un peu avec soit notre arrière-plan familial, soit notre tempérament. Je disais la semaine dernière, moi, par nature, je suis un scout. Ce matin, là, je vous montrerai encore mon agenda, mon journal personnel. J'ai coché 3 cases ce matin dans mes cases de la journée, d'accord? Fait que par nature, je suis un scout, je fais mes affaires. Bon, ben moi, par nature, c'est pas « Ah, on est sauvé par grâce, puis on va se laisser aller dans le péché. » Non, non, au contraire, c'est « OK, là, je suis pas encore assez bon, je suis pas assez bon, je suis pas assez bon. » Fait que par nature, moi, j'ai plus tendance à être légaliste que de l'autre côté. Puis on a chacun des tendances différentes. Ça, c'est un exemple, mais comme Alexandre le disait, lorsque je suis en train de m'investir dans la vie de quelqu'un, je peux regarder l'autre sans avoir la foi qu'il appartient maintenant à Christ puis qu'il est une nouvelle personne en Christ. Puis je trouve pas la foi pour l'aider à entrer dans cette réalité-là de sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Et donc, être centré sur l'Évangile, de manière un peu simpliste, c'est de comprendre que l'Évangile n'est pas seulement la porte d'entrée du salut, mais que c'est là où on se tient à tous les jours, dans l'œuvre, la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli. Une autre manière de le dire, c'est lorsqu'on parle de notre sanctification, le processus, sanctification dans le sens le processus de transformation, on va dire j'ai été sauvé, je suis sauvé, puis je serai sauvé. Okay? Fait que j'ai été sauvé, tous mes péchés sont pardonnés. À tous les jours, Dieu est en train de me transformer à l'image de Christ, il est en train de former le caractère de Christ en moi, la personne de Christ en moi. Puis en même temps, je vais être entièrement délivré quand je vais recevoir ce corps glorifié, puis les combats vont cesser. Et il faut que j'apprenne à tous les jours à lire les Écritures en comprenant cela, à envisager les épreuves que Dieu permet dans ma vie en comprenant cela, en envisageant le mal que les gens peuvent me faire en comprenant ça, en envisageant les tentations, en envisageant mes succès ou mes défaites dans ma foi en ayant ça à l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Oui, Alex. Amen. Exactement. Fait que lorsque je lis les Écritures, je vais vers la loi de Dieu, par exemple, parce que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas centré sur l'Évangile arrive dans le Nouveau Testament, certain, si ta tendance, c'est de dire, OK, j'ai été sauvé par grâce, puis de toute façon, on ne pouvait pas y arriver, fait que c'est juste par la grâce de Dieu, puis je n'ai pas apporté des fardeaux, j'ai été libéré de tous mes fardeaux. Là, tu arrives devant tous les impératifs dans le Nouveau Testament, parce qu'il y en a des impératifs. Puis, je veux dire, si on lit sérieusement le Nouveau Testament, Jésus est beaucoup plus exigeant que l'Ancien Testament, parce que Jésus, il dit, non, vous n'avez pas compris la loi. C'est pas juste quand tu vas vers la femme de ton prochain, c'est quand tu convoites dans ton cœur que tu es déjà allé vers elle. Tu es sûr de toujours être coupable. Fait que là, tu arrives dans les impératifs du Nouveau Testament, puis là, ton réflexe, ça va être de sauter ces passages-là. Mais si je suis centré sur l'Évangile, je peux aller vers ces passages-là puis dire, seul Christ est le Fils parfaitement obéissant, qui n'a jamais convoité la femme d'un autre. Excusez-moi de le dire comme ça. Seul Christ est le Fils parfaitement obéissant, qui n'a jamais convoité la femme d'un autre. Puis pour tous les péchés que moi j'ai commis, où mes regards se sont détourné de mon épouse, admettons. Je suis déjà caché en Jésus-Christ. J'ai été pardonné à cause de l'œuvre de Christ. Maintenant, l'Esprit de Christ habite en moi et il est puissant. Il est puissant parce que le diable, le monde, la chair ont déjà été vaincus à la croix. Donc, je peux poursuivre cette sainteté-là. Je peux la chercher de toutes mes forces. De toute façon, je vais le faire en m'appuyant sur la grâce que Christ m'offre. Voyez-vous? Fait que je suis centré sur l'Évangile. C'est vraiment toute l'œuvre de Jésus qui est là constamment dans mon quotidien. Et je veux que ce soit là tout le temps. Autrement, je vais tomber d'un côté ou l'autre. Je vais y aller par mes propres forces. Quand je vais exposer c'est quoi la vie chrétienne à un collègue de travail, bien, soit que je vais cacher des péchés parce que je ne veux pas avoir l'air d'un mauvais chrétien, comme si ça existait vraiment un bon chrétien, tu sais. Mais au contraire, non, si je suis centré sur l'Évangile, je peux assumer mes fautes puis prêcher encore l'Évangile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions, des commentaires sur ça? Eugénia. Oui. Oui, c'est une lutte d'être même centré sur l'Évangile, oui. Oui, c'est ça. C'est une excellente question. Je vais la répéter. Si j'ai un combat particulier dans ma vie, je vais le dire comme ça, puis tu me diras si je reflète bien ta question, Eugénia. On a tous des combats particuliers. Hein? Paul dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Bon, il y en a qui bronchent plus comme ça, puis d'autres comme ça. Fait que si j'ai un combat particulier dans ma vie, est-ce que je peux aspirer à être délivré de ce combat-là, puis dire, ça, c'est réglé, maintenant, on va travailler d'autres choses. C'est un peu ça ta question. Ici, dans cette vie, bien, c'est drôle, j'ai le goût de dire que je n'arrive pas à penser à un seul passage dans le Nouveau Testament qui affirmerait quelque chose de semblable. Je peux définitivement aspirer, demander, supplier Dieu pour ne pas être quelqu'un qui pratique constamment le même péché. Mais quand je parle de pratiquer, je veux dire d'une manière volontaire. Un homme qui lutte avec la pornographie, peut définitivement aspirer à ne plus tomber, ne serait-ce qu'occasionnellement, dans un péché comme celui-là. Est-ce que ça veut dire que la tentation de convoiter, il va en être entièrement délivré? Hey, ça, c'est toute la théorie de c'est Wesley avec la sanctification parfaite dans cette vie qui pensait que c'était possible par certaines expériences spirituelles de vivre une sanctification complète puis on ne pêche plus. Je ne vois pas ça du tout dans les Écritures, ni de manière absolue, ni de manière spécifique. Ah, moi, je ne mentirai plus jusqu'à la mort. Maintenant, je ne pense pas que c'est exactement ça que tu voulais dire. C'est peut-être plutôt de dire que ça ne devient plus une lutte continuelle puis qu'on voit une sanctification, une progression. Ma réponse à ça, ce serait oui. Le caractère de Christ est formé en moi, mais en même temps, disons que pour Yannick, il va toujours y avoir plus de probabilité que je pêche en méritant, puis en disant une stupidité, qu'en me mettant en petite boule, puis en allant me cacher dans un coin parce que je fuis une situation. Parce que moi, je bronche plus comme ça que comme ça. OK? Fait que les gens qui me connaissent intimement, vont dire, Yannick, le Seigneur t'a fait grandir. On l'a vu à travers les années. Dieu t'a fait grandir. Puis moi, j'observe, je constate que Dieu me fait grandir. Mais malheureusement, il va y avoir toujours cette espèce d'écho-là dans mon oreille qui va, quand ça va m'arriver, de moins en moins souvent, de tomber, par exemple, en méritant, puis en disant quelque chose que je regrette, admettons, ben moi, ça va probablement être plus ça que, ah, OK, maintenant, je ne dis plus de niaiserie, mais je vais toujours me cacher en petite boule, puis je me sauve des situations, j'ai peur. C'est ça, Mathieu Caron, il dit, la tache originelle du péché en Adam a des couleurs puis des saveurs différentes chez chacun d'entre nous, puis cette saveur-là ne va pas nécessairement me quitter. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question avec des nuances, là. Mais le langage de dire « j'ai été délivré », je ne sais pas, je le trouve délicat. Ça demande des nuances quand tu dis ça. J'ai été délivré. OK, tu as été délivré de la pratique, de la consultation, de la pornographie. OK, ça, je peux aller jusque-là. Tu as été délivré de convoiter. Ah, tu as grandi. Tu as grandi. Le caractère de Christ est en train d'être formé en toi. Je pense que ce serait plus un langage biblique. C'est ça. Mais on désire être délivré. Hein? On désire dire, ah, j'ai été délivré, c'est en arrière. Tu sais? Peut-être une des meilleures illustrations, c'est les personnes célibataires de 18 ans qui languissent pour se marier. Puis là, tout d'un coup, ils sont délivrés des luttes du célibat. Ils ont remis ça au Seigneur pour 2 mois. Puis après ça, ils reviennent. Mais c'est parce que je l'ai vécu. Tu sais, ah non, moi, ce sera dans le temps du Seigneur. Seigneur, pourquoi? C'est ça. Mais on vit ça aussi avec des combats dans nos péchés. Oui. Ça pourrait être un exemple, l'écharpe que Paul avait dans la chair. C'est délicat parce que ça semble plus être des attaques. Donc, est-ce que c'est un handicap que Dieu a permis dans sa vie? J'aurais de la difficulté à dire que l'écharpe dans la chair, ce serait une inclinaison au péché particulier dans sa vie. Peut-être plus des tentations. Je sais pas. Bonne question. Bonne question, Régent. Maintenant, si ma vie personnelle et si ma formation de disciple n'est pas centrée sur l'Évangile, ça va entraîner des conséquences. Ça peut nous amener à manquer énormément de joie. Ça peut nous priver de notre joie. Ça peut occasionner qu'on a moins de progrès même dans notre marche spirituelle parce qu'on s'appuie sur nous-mêmes, on cherche à performer ou bien on abandonne. On retourne pas quotidiennement à la grâce. On retourne pas quotidiennement à notre identité en Jésus-Christ. C'est comme si, quand je suis centré sur l'Évangile, mes matins puis mes soirs sont toujours l'occasion de faire un reset. Toujours. Puis de remettre la gloire à Dieu pour ce qui s'est bien passé, puis de remettre mes péchés au Seigneur, puis de dire, de toute façon, je suis caché en toi, puis ton œuvre continue en moi, puis ton esprit habite en moi. Fait que si je ne suis pas centré sur l'Évangile, voici les conséquences. Je vais souvent manquer de joie, possiblement. Je vais voir peu de progrès dans ma maturité spirituelle. Mon amour pour Dieu va manquer de passion. Parce qu'il peut y avoir de l'amertume envers Dieu. J'arrête de poursuivre la sainteté. Quand je poursuivais la sainteté, je devenais légaliste. Fait que j'arrête de poursuivre la sainteté. Mais il y a des chrétiens, ils ne vont pas le dire comme ça. Oh, moi, j'ai arrêté de poursuivre la sainteté parce que j'étais légaliste. Ils ne vont pas le formuler comme ça, mais quand tu prends le temps d'avoir la conversation, c'est ça qui se passe. Quand je poursuivais la sainteté, je devenais toujours comme quelqu'un de dur, puis ta. Fait que je me souviens, un vieux chrétien m'avait dit au début de ma vie chrétienne, « Ah, moi, j'essaie plus de faire mon culte personnel, parce que chaque fois que je fais ça, c'est comme, je le fais pas de bon cœur, fait que j'attends juste de le faire de bon cœur. » Ben là, je me dis, OK, il avait pas compris la centralité de l'Évangile. Hier, tu l'as pas fait de bon cœur. Aujourd'hui, ça se pourrait que tu le fasses. Fait que repends-toi pour hier, puis attends-toi la grâce pour aujourd'hui. Puis cherche Dieu, puis commence en disant, « Seigneur, mon cœur n'est pas bien disposé. » Il y a juste Christ qui allait dans la prière. Puis à toutes les fois qu'il allait dans la prière, c'était comme une connexion divine avec son Père parce qu'il n'y avait pas de péché qui faisait aucune interférence. Dans mon cas, moi, mais souvent, je commence en disant, « Seigneur, peux-tu me donner la communion que ton Fils a avec toi parce que maintenant, je suis ton Fils en lui. » Puis je reste là jusqu'à temps que l'Esprit vienne faire cette œuvre-là en moi. Mais je ne vais pas abandonner en me disant, « Ah, moi, je vais faire mon culte personnel quand mon cœur est là, parce que le Seigneur veut qu'on soit vrai. » Tu peux être vrai en confessant tes péchés, tu sais. Fait que tu peux être vrai juste en disant, « Seigneur, j'ai juste pas le goût d'être ici, puis tu vois ma chair, puis tu vois mon cœur, puis j'ai honte, mais je ne vais pas aller ailleurs, parce que c'est juste ici que je vais trouver la grâce. C'est pas en allant écouter une émission sur Netflix pour me sauver du fait que je me sens coupable d'être avec toi parce que j'ai pas le goût d'être avec toi. Non, je vais rester là. » Jusqu'à temps que l'Esprit-Saint vienne appliquer l'Évangile dans mon cœur et que j'ai la joie d'être là. J'espère que ça fait du sens. Excusez-moi l'anglicisme. Beaucoup de difficultés à pardonner aux gens qui les blessent, qui les offensent. C'est la centralité de l'Évangile. Toujours à la recherche d'une nouvelle technique, une nouvelle vérité, une nouvelle expérience, un nouveau livre qui va venir révolutionner ma vie spirituelle. Moi, je lis énormément de livres, mais il n'y a rien qui va révolutionner ma vie spirituelle comme l'Évangile. Il n'y a rien du tout. Fait que des fois, je tombe sur un bon livre qui m'aide à comprendre des aspects de l'Évangile que je n'avais pas encore compris. Mais il n'y a pas d'autre technique magique de le lire. Fait que moi, je veux vous encourager sérieusement à prendre le temps de le lire sur ce sujet-là. Si vous trouvez ça sympathique quand je l'explique, mais que vous ne sauriez pas le communiquer, ça veut dire que vous ne saurez même pas vous le communiquer à vous-même. Tu sais, Paul repassait dans son cœur des choses, puis il parlait à son âme. Alors, quand vous m'entendez dire dans des prédications, le matin, je me réveille, puis je me prêche l'Évangile. Je l'ai fait encore ce matin, là. D'accord? Si vous dites, c'est tellement bizarre ce que Yannick dit des fois, là, c'est comme, c'est quoi tu fais, je comprends pas. Allez-y, cherchez, lisez, allez lire la petite plaquette de CJ, ça va être un bon point de départ, puis on peut vous diriger vers d'autres lectures. Mais comment est-ce que je vais faire pour être centré sur l'Évangile? Premièrement, en le vivant moi-même, je vais placer l'Évangile au centre de mon adoration quotidienne, je vais travailler sur ma propre passion pour la croix de Jésus-Christ. Notre vision en Église, c'est, on veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. On ne veut pas perdre notre émerveillement. On veut cultiver cet émerveillement-là parce que tout le reste dépend de ça. Autrement, on va être une église de performance ou une église qui se laisse aller ou une église qui perd son premier amour. Lire chaque année un nouveau livre sur l'Évangile, méditer, étudier le sujet du salut davantage. Le salut en Jésus-Christ, c'est vraiment un diamant aux mille facettes. C'est ça qui me permet de comprendre toute la Bible. Et c'est ça qui me permet de me comprendre, moi. Puis il y a vraiment mille facettes à ça. Des fois, on va les mettre en termes théologiques, la justification, la sanctification, la glorification, la rédemption, l'expiation. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi les images qu'il y a dans le Nouveau Testament où on parle de nouvelle naissance, par exemple. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? L'œuvre de l'Esprit dans le salut, c'est quoi? L'œuvre du Père dans le salut, c'est quoi? Il y a mille facettes juste au salut. Qu'est-ce que le salut représente pour le salut de l'univers? L'histoire de la rédemption, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire de l'Évangile, ça. Mais je peux aller étudier ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire dans ma relation avec la culture, avec la société? On est en train de traiter ça tranquillement à travers l'Apocalypse, mais rapidement à travers l'Apocalypse. Mais on est en train de le faire à travers l'Apocalypse aussi. Tenir un journal où nous réfléchissons et méditons sur les vérités de l'Évangile. Je le partageais à quelqu'un cette semaine. Si vous ne tenez pas un journal personnel, c'est pas obligé d'être quotidien. Hein? Si vous voyez, là, moi j'en ai là, des journaux, là. Puis si vous voyez, des fois, là, je peux passer 3 mois sans écrire dedans. Puis là, à un moment donné, je me dis, ah, t'es bien coco. C'est quoi que le Seigneur t'a montré dans les 3 derniers mois? Je vais m'en rappeler lors de ma prochaine souffrance. Il va se passer de quoi? Je vais me péter à la baboune. Puis là, ah oui, c'est vrai, Seigneur, tu m'avais montré ça. Mais moi, je vous encourage, quand vous ouvrez votre Bible, vous prenez un temps avec Dieu, avoir un journal avec vous. Peut-être que vous allez écrire dedans, peut-être que vous n'écrirez pas dedans. Si Dieu vous montre quelque chose, vous saisissez quelque chose, écrivez-le en une phrase. Peut-être que vous ne le relirez pas, mais il y a des moments où vous allez dire, OK, je vais relire mon journal de toute l'année. Quand je partageais à quelqu'un cette semaine, prenez le temps d'écrire une prière que Dieu vous convainc que vous devez lui adresser. On vit toutes sortes de choses à la maison, comme plusieurs d'entre vous le savez, puis le Seigneur m'a rappelé des choses qu'il m'avait dites il y a 7-8 ans de ça. Mais j'ai pris le temps d'écrire que Dieu m'a rappelé ce qu'il m'avait montré il y a 7-8 ans. J'ai pris le temps de le formuler dans une requête de prière parce que j'ai besoin actuellement d'y revenir constamment. Je ne peux pas me permettre de passer une journée sans me rappeler de cette requête-là que le Saint-Esprit m'a donnée. Cette requête-là là, est selon Dieu et selon la parole. Je sais, OK, Seigneur, c'est comme ça que tu veux que je te prie. Je le comprends, là. Puis dans 3 heures, je ne m'en rappellerai plus. Je vais souffrir, là, je vais avoir toutes sortes de luttes. Puis j'ai besoin de me rappeler de ça. Fait que je l'ai écrit. Fait que moi, je vous encourage, sérieusement, si vous ne tenez pas un journal personnel, vous n'avez pas besoin là, d'être des scouts comme moi là, qui fait des petites cases puis qui coche un paquet d'affaires. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est juste un cahier où vous écrivez des choses quand Dieu vous parle. Puis des fois, des journées, vous n'avez rien à écrire. Vous dites, je vais écrire des actions de grâce. Dieu m'a montré ses bontés. Puis il y a des journées, vous n'allez juste rien écrire. Ce n'est pas grave. Mais ça vous permet de... Je trouve personnellement que ça nous permet de travailler plus consciencieusement avec l'Esprit Saint. Est-ce que ça fait du sens quand je dis ça? De travailler de manière plus sérieuse avec l'Esprit Saint, parce que l'Esprit nous parle. Puis il montre des choses. Puis il y a d'autres époques où les gens chantaient les psaumes, mémorisaient les Écritures. Le journal, pour moi, fait partie de ces exercices-là, de ces outils-là. Chercher dans notre cœur comment l'Esprit veut nous amener à grandir en appliquant l'Évangile. Fait que c'est une des questions que moi, j'ai toujours à l'esprit quand je forme quelqu'un. Je veux être attentif à ce que la personne perçoit, comprend, que l'Esprit veut faire dans sa vie par rapport à l'Évangile. Je l'ai dit au début lorsque j'ai commencé le cours, quand je fais de la formation disciple, moi j'ai un agenda. Puis c'est correct que moi j'ai un agenda, dans le sens que j'ai prié Dieu, puis je vois des choses qui sont à travailler dans la vie de la personne, puis je m'en viens, puis je me dis, j'ai hâte qu'on aborde ça avec cette personne-là. Tu sais, je sens qu'il y a de l'amertume encore à quelque part, ou j'ai l'impression qu'elle parle de tel combat, de tel péché, comme avec à la légère, tu sais, je sais pas, n'importe quoi, ou comme je sens pas de la reconnaissance, puis je trouve qu'elle se prive de la joie, de l'action de grâce. Fait que j'ai mon agenda. Mais quand j'arrive là, généralement, j'ai la sagesse de demander à Dieu, pendant la rencontre, « Seigneur, c'est quoi ton agenda à toi? » Puis son agenda à lui, je le cherche en partie dans ce que la personne va me dire. « Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler dans ta vie actuellement? » Puis je vais être sensible à ça. Des fois, ça va se manifester à travers mon agenda. La personne dit, je sais pas, je suis disponible, je suis ouvert, on commence à jaser, j'amène mon sujet que j'avais à cœur. Boum, c'est clair, la personne, elle clique, OK, bonne discussion, on part avec ça. C'est correct, le Seigneur s'est servi de moi, mais souvent, Dieu est déjà en train de travailler des choses dans la vie de la personne. Puis dans le dialogue avec la personne, je vais être attentif. Puis pourquoi est-ce que je veux le faire? Je veux le faire parce que c'est le Saint-Esprit qui est le vrai coach. C'est pas moi qui transforme les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, je veux juste accompagner l'œuvre de l'Esprit dans la vie de la personne. Mais deuxièmement, c'est que je veux que la personne apprenne, développe cette discipline-là, d'être sensible à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans sa vie. Fait que comment je vais le faire? Mais j'y arriverai pas si moi j'arrive juste avec mon agenda puis je sais qu'est-ce que tu dois apprendre aujourd'hui. Yeah, comme si je connaissais son cœur, tu sais. Moi, je ne connais pas son cœur. Cette personne-là ne connaît même pas elle-même son cœur vraiment. Fait que je veux plutôt y enseigner à être sensible à ce que... Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans la parole cette semaine? Où est-ce que ça a fait mal d'être chrétien cette semaine? Qu'est-ce qui amène de la souffrance dans ta vie? Où est-ce que tu perds ta joie? Où est-ce que tu es rempli de foi? C'est quoi les défis que Dieu place devant toi? Puis à travers ça, on va travailler avec la personne. Alors, un conseil pour nous-mêmes, c'est d'apprendre à faire ça. C'est d'être sensible à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Donc, deux bonnes lectures, je les mentionne à la fin de la leçon 6. Une vie centrée sur la croix, je vous dirais, c'est le point de départ. C'est une plaquette, 70 pages peut-être, je ne sais pas, c'est tout petit. Et puis, changer comment vraiment, ou changer vraiment comment, je mélange toujours. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ça donne aussi comme une espèce de structure pour travailler avec l'Évangile au quotidien. Mais prenez le temps de les relire aussi, jusqu'à temps que vous soyez en mesure d'appliquer ça par vous-même dans les Écritures puis dans votre expérience quotidienne. Puis quand vous êtes capable de faire ça assez aisément, après ça, vous êtes en mesure de le faire avec quelqu'un d'autre. Puis après ça, vous êtes en mesure même de dire à quelqu'un d'autre, « OK, prêche-moi l'Évangile maintenant. » Là, tu peux arriver là dans le groupe. Moi, je vous partage mon combat. Maintenant, prêchez-moi l'Évangile, les gars. Comment l'Évangile peut venir à mon secours dans ce que je vis actuellement? Puis là, il développe cette compétence-là d'être en mesure de faire ça. Donc, l'objectif, c'est toujours, 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 toujours le cœur. Puis comment est-ce qu'on reste toujours là? C'est avec l'Évangile. On va aller voir ensemble brièvement une structure que je vous propose pour la formation de disciples. Comment pourrait se dérouler une rencontre lorsque vous faites de la formation de disciples? Alors, qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on fait de la formation de disciples? On cherche à provoquer de la croissance chez les gens. On ne veut pas juste leur communiquer des vérités. On ne veut pas leur communiquer seulement de la théorie. Ça, il y a des livres pour ça. La prédication cherche à produire le changement le dimanche matin, sauf qu'on n'a pas l'interaction pour dire, « Puis vous, Mme Paradis, là, qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui, le message, ce matin? » Toi, Sylvie, comment ça va s'appliquer dans ta vie cette semaine? Denis, qu'est-ce que ça change dans ta vie, ce passage-là, cette semaine? Mais dans le coaching, c'est ça qu'on est en train de faire. On tombe à 3-4, puis on échange ensemble, puis on partage pour ça. Donc, ce qu'on cherche, c'est à avoir du changement, à produire du changement. Lorsque vous êtes celui qui initie les rencontres, mais dans l'approche que nous, on vous propose de voir 3 ou 4 personnes, dont vous-même, comme des disciples en cheminement. On est tous en train de cheminer. Le maître, là, il est au ciel, puis il est en train de s'occuper de nous, c'est Jésus. Il n'y a pas de maître ici autour de la terre. D'accord? Maintenant, donc, je suis un disciple, moi aussi. Mais c'est moi l'initiateur. Donc, je dois apporter une direction. Je suis là pour donner une direction. Il faut, lorsque je me présente, que j'ai quand même un agenda. On va faire des choses ensemble. J'ai une idée où on s'en va. J'ai prié pendant la semaine, pendant les 2 semaines entre nos rencontres, puis il y a des choses sur lesquelles je veux revenir, d'accord? Donc, ça demande un petit temps de préparation, une rencontre. Puis, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va aller chercher, mettons, un bon bouquin, on a une structure, on a un cours qu'on est en train de suivre, puis on se dit, on va travailler avec le cours. C'est loin de suffire à la préparation. Il faut vraiment que j'aille dans la prière pour les gens avec qui on va se rencontrer. Il faut que je prie pour eux, il faut que je sois attentif. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Je prends des notes. Je suis encore toujours en train de me corriger. Là, sur mon bureau, là, si vous alliez à la maison, là, j'ai 3 conversations ou rencontres que j'ai faites pendant la semaine pour lesquelles je n'ai pas eu le temps d'écrire des notes après la conversation téléphonique ou la rencontre. Puis c'est écrit, là, je pourrais vous donner des noms. Là, c'est 3 personnes à qui j'ai parlé, puis je n'ai pas pris le temps de prendre des notes. Fait que c'est là, tant que je n'aurais pas fait ça, je ne vais pas aller faire d'autres temps. Je vais prendre le temps de m'arrêter. Je vais aller prendre des notes. Quand vous faites du coaching, il faut prendre des notes. Vous prenez des notes après. Il y a ça qui s'est passé, tout ça. Quand vous revenez, hey, l'autre fois, on a jasé de ça. Comment ça va? Donc, c'est important. C'est vraiment précieux. Les gens vont le voir. Ils vont l'apprécier. Évidemment, dans votre préparation personnelle, on l'a dit, être centré sur l'Évangile, vous nourrir vous-même spirituellement. Comme j'ai dit, on va repartir ce qu'on a fait pendant au moins 3 ans, je vous dirais, des rencontres de débogage. Fait que vous allez vous lancer, puis là, vous allez dire... Puis là, on va se rencontrer, venez prendre un café chez nous. Du débogage, je ne sais pas si c'est dans un langage que je pense être informatique. On règle des bugs informatiques. Mais dans la formation de disciples, il y en a plein de bugs. Il y a plein de petits pépins, il y a plein de problèmes, d'accord? Puis on ne sait comme pas trop c'est quoi la solution. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend un café, tous les coachs ensemble, tous ceux qui sont disponibles. Puis là, sans commencer à nommer des noms, on va dire, « Bon, Denis, partage-nous, là, c'est quoi ta difficulté? Ben, j'ai telle personne, il veut abandonner. Je ne sais plus quoi faire. J'ai rappelé qu'on avait pris un engagement, mais il veut juste abandonner. Qu'est-ce que je fais? » Puis j'ai l'impression que sa présence est plus nuisible à la dynamique du groupe que même positive. Fait que j'ai quasiment le goût de le laisser aller. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Mais on en jase ensemble. Parce que, tu sais, Paul, je veux dire, il s'est débarrassé de Marc à un moment donné. Il y a même un point de litige avec Barnabas, tu sais. Fait que peut-être que je peux le laisser aller. On va en discuter ensemble. Ça, c'est du débogage, d'accord? Et donc, ça, c'est vraiment utile. Maintenant, quand on arrive à la rencontre, qu'est-ce qu'on fait dans la rencontre? Si vous allez à la page 4 dans vos notes, est-ce que vous avez eu les notes qu'il y en avait sur la table là-bas? Ça va? Oui? OK. Là, je vais vous faire une confession, là. J'ai jamais suivi mon plan. OK? Je vais juste être honnête avec vous, parce qu'il y a des témoins ici dans la salle, peut-être. J'ai jamais suivi mon plan. Mais j'ai en tête les ingrédients du plan. Fait qu'on essaie de couvrir à peu près ça. On prend un temps de partage. Je vais juste les lire, après ça, je vais les commenter. On prend un temps de partage parce qu'on veut prendre soin les uns des autres, puis on veut connecter, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, où est-ce que tu es rendu. Deuxièmement, on prend un temps de prière, un temps de confession. C'est fou le nombre de personnes qui ne sont pas à l'aise de prier avec d'autres personnes. C'est impressionnant. Là. Je ferais lever la main ici. Là. Il y a probablement un tiers des gens ou un quart des gens qui ne lèveraient pas la main, parce qu'ils ne voudraient peut-être pas le dire, mais il y a peut-être un quart des gens ici qui ne seraient pas à l'aise de prier en groupe. D'accord? C'est énorme, donc c'est vraiment important. Fait que si c'est pas à l'aise de prier, imaginez confesser. Prendre des nouvelles de la lecture biblique du culte personnel. Encore une fois, qu'est-ce que l'Esprit est en train de te dire? Discuter ensemble de la gestion de temps des priorités, j'y reviens. Discussion autour d'un livre, et puis entendre sur qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, puis encouragement. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? À travers toutes les rencontres, on cherche à être attentif à l'œuvre que l'Esprit est en train de faire. Ça peut se passer à travers le quotidien de la personne. Il s'est passé quelque chose d'énorme cette semaine. Maintenant, il y a des gens qui ils ne vivent qu'au quotidien. Ils n'ont pas fait leur devoir, ils n'ont pas lu leur Bible, tout ça. Puis là, le quotidien est énorme, puis leur vie est toute à l'envers. Puis là, on pourrait passer 2 heures à discuter. Puis des fois, ça va arriver. Quelqu'un qui arrive, puis c'est... Au début, tu ne sais pas si c'est la personne qui vit un drame à toutes les semaines. Il y a des gens qui sont toujours en train de vivre des drames. C'est un peu leur lecture des choses. Mais il faut que tu sois sensible. Au début, il y a quelqu'un qui arrive, puis écoute, il a perdu sa job cette semaine, ça a super mal fini. Pas de recommandations, bang, bang, bang. Comment il vit ça? Il est insécure pour l'avenir. C'est gros, là. C'est gros. Bon, mais ça va prendre plus de temps. Mais je veux savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers le quotidien de la personne. Ensuite, on va aller dans l'adoration ensemble. On va prier ensemble, on va confesser ensemble. Souvent, moi, je le fais à la fin. Je le regrette quand je fais ça. Je devrais le faire au début. Je peux prier un peu à la fin, mais on a tendance à négliger le temps de prière. Puis ça dit beaucoup, ça communique beaucoup de choses. Puis la confession, bien, je l'ai dit l'autre fois, ça va vous challenger, mais vous devez être la première personne qui confesse. Parce que vous êtes là pour inspirer, vous êtes là pour instruire, vous êtes là pour enseigner. Donc, je suis là pour donner l'exemple. C'est sûr, si vous voyez aux 2 semaines, là, vous avez lutté avec une tentation sérieusement au cours des 2 dernières semaines. C'est certain. D'accord? Maintenant, des fois, il faut être sage. Alors, moi, je suis pasteur. Puis là, je suis avec des gens. Bien, des fois, je ne vais pas tout mettre sur la table. Je ne me suis pas engagé à tout mettre sur la table. Puis je suis un homme marié aussi. Fait que j'ai une vie personnelle avec mon épouse. Puis il y a certaines choses que je peux mettre sur la table, d'autres non. Fait que j'ai un cercle de 2 amis. On est 3 gars. Avec ces 2 gars-là, j'ai la bénédiction de ma femme, j'ai le droit de tout dire. Elle est courageuse. Fait que ces gars-là, j'ai le droit de tout leur dire, puis ils peuvent me poser toutes les questions. Mais elle ne m'a jamais donné cette bénédiction-là avec personne d'autre. D'accord? Fait que quand je vais faire de la formation de disciple, du coaching, bien, je vais peut-être adapter mon langage, m'ajuster dans mes confessions. Mais je vais toujours être le premier à confesser. Puis ceux qui me connaissent, vous pouvez vous dire, « Ah, mais ça, c'est ton style, Yannick, parce qu'on le voit dans ta prédication. » Granted, je suis d'accord avec vous. Il demeure qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». D'accord? Fait que Yannick est peut-être plus de ce genre-là. Ça ne vous dispense pas de le faire si vous dites « Moi, mais moi, je ne suis pas de ce genre-là ». Il n'y a pas vraiment de genre pour obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu s'applique à tout le monde. D'accord? Après ça, ben là, on va voir notre style à chacun. Moi, ça fait partie de mes dispositions. Je pense que ça vient de mon premier père spirituel, Richard Roule, puis c'était ça son style, c'était ça son approche, très transparent, puis ça invitait à la transparence, puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait une force incroyable dans ça, mais peut-être aussi que j'ai une inclinaison à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça, sur le temps de prière, la confession? On en a parlé déjà un peu, là. Ça va? Oui? Je sais que ça va être un défi pour certains d'entre vous. Fait que confessez que vous avez fait votre culte personnel juste 13 fois autour des 14 derniers jours. T'sais. Allons-y avec des choses difficiles comme ça. Puis tranquillement, vous aurez le courage de confesser des choses un peu plus délicates. Mais la mesure à laquelle vous êtes prêt à vous rendre transparent, ça va entraîner l'autre aussi. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'établir une relation de thérapeute et de patient. C'est ça que vous êtes en train de faire. Si ce que vous attendez, c'est que les gens vivent des choses extraordinairement difficiles, qu'ils n'auront pas le choix de mettre sur la table parce qu'ils sont là pour grandir, on fait de la formation de disciples, tu es là pour grandir, tu arrives puis tu n'en peux plus, là, tu vomis ton péché sur la table, puis toi, tu ne confesses jamais. OK, tu es un thérapeute, tu es un confesseur. Vous savez c'est quoi un confesseur? Vous avez connu ça, un confesseur? Tu es un confesseur, c'est à ça que tu sens. Mais moi, je ne veux pas être un confesseur. Moi, je veux être un disciple qui montre c'est quoi être un disciple. Puis un disciple, ça ne vomit pas son péché à quelqu'un d'autre juste quand il n'est plus capable de le garder pour lui-même. Un disciple, c'est quelqu'un qui va confesser son péché à un frère parce qu'il a besoin que le frère prie avec lui. Parce qu'il a besoin que le frère lui rappelle l'Évangile. C'est ça, un disciple de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui fait preuve de transparence. Pas qu'il devient transparent quand il est découvert. Ou quand il n'est plus capable de contenir ses péchés. D'accord? Et donc, je ne veux pas établir une relation de psychothérapeute puis de patient. Je veux que ce soit une relation de disciple. c'est vraiment quelque chose à travailler. Si pour vous, c'est un défi, pour certains d'entre vous, ça va être un défi. C'est pas comme un réflexe. Prenez des nouvelles de la lecture biblique, du culte personnel, c'est important. J'ai quelqu'un qui m'a taquiné là, parce qu'on fait les lectures de l'Avent. On a invité plein de gens, là, ceux qui sont avec nous sur YouVersion, je les ai invités à joindre à moi pour lire un calendrier de l'Avent dans les Écritures, tout ça. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a taquiné puis qui m'a dit, OK, si j'embarque, ça veut-tu dire que je dois comme exposer mes performances spirituelles à tout le monde? Tu sais? Puis dans le fond, cette personne-là, probablement que dans une relation de coaching, résisterait un peu à l'idée de dire, on va dire comment ça va notre relation avec Dieu, parce qu'il y a l'impression qu'il est comme en train de faire ça pour paraître devant les gens. Tu sais. C'est parce que la lecture des Écritures était faite publique, était faite en assemblée, on priait ensemble. Tu sais. Fait que on veut grandir. Fait que je comprends que ça peut devenir ça. Ça peut devenir quelque chose où, tu sais, je suis bien dans ma peau parce que j'ai fait mon culte personnel toute la semaine. Ben oui, mais ça va sortir, ça, dans le coaching, que dans le fond, OK, toi, t'es un scout qui fait ses cases, puis là, tu sais, t'es en paix avec Jésus parce que t'as coché tes cases, mais t'es pas capable de pardonner à ton collègue de travail, puis ça, c'est pas aussi grave, tu sais. Ça va sortir dans le coaching. On va pouvoir adresser ces choses-là, puis on va pouvoir en venir à des vraies conversations sur la relation que les gens ont avec Dieu. Donc, on veut poser des questions sur ça pour en discuter ensemble. On veut discuter ensemble de la gestion de temps puis des priorités. Si on mettait chacun d'entre nous notre calendrier, notre agenda sur la table, on n'aurait plus grand-chose à cacher. Si vous mettez votre agenda sur la table, là, vous allez me dire peut-être que vous ne tenez pas un agenda, mais OK, si on avait une photo de vos occupations de la semaine ou de vos priorités. En fait, quand vous allez partir dans la lune pendant la prédication tantôt, si on pouvait prendre une photo de votre cerveau pour voir c'est quoi qui vous préoccupe, probablement que ça parlerait de votre priorité, d'accord? Fait que quand on parle de nos priorités, on parle de notre cœur. On s'en va droit au cœur de la formation de disciples. Donc, être capable de dire, OK, c'est quoi tes priorités cette semaine? Bon, là, la personne va dire, c'est quoi qui devrait être ses priorités? C'est correct. C'est correct. Je veux devant Dieu considérer, ma priorité à moi, là, cette semaine, c'est prier. Moi, je suis un pasteur, je suis un chrétien, Yannick. Ma priorité, c'est toujours prier. T'sais. Peut-être que si vous venez regarder combien de temps j'ai consacré dans la prière cette semaine, peut-être que vous allez dire, c'est peut-être pas la prière, la priorité. Je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que ce serait ça. T'sais. Fait que vous demandez à la personne, c'est quoi tes priorités dans les deux prochaines semaines? Là, la personne vous dit, comme en théologie, hein? En théologie, tu as ta théologie confessée, puis tu as ta théologie expérimentée. Celle que tu confesses, c'est ton credo, moi je crois ceci. Puis quand tu pars à rêvasser dans la journée, si tu es attentif à ce qui se passe, ça c'est ta théologie expérimentée, c'est ta théologie vécue. D'accord? Ah, j'ai peur. Non, mais je crois en Dieu. Mais j'ai peur. OK? Fait que ça c'est ta théologie vécue. Même chose avec les priorités. Mes priorités cette semaine, c'est ça. On se revoit deux semaines plus tard. Comment ça a été avec tes priorités? Qu'est-ce que ton agenda va me dire comment ça a été avec tes priorités? Puis c'est pas qu'on... On n'est pas là pour jouer à la police. C'est pas que je suis là pour policer les gens. On est en train de travailler sur les choses de cœur, puis notre vie vécue parle plus de notre cœur que tout le blabla qu'on peut en faire. Le réel de mon quotidien parle plus de mon cœur puis de l'œuvre de l'Esprit-Saint que tout ce que je pourrais prétendre. Fait que si je ne donne pas accès à la réalité, comment est-ce que la personne peut interagir? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou des commentaires? Vous êtes dû pour un espresso? Je vais vous laisser aller. Je vais vous laisser aller, ce ne sera pas long. Moi, je vous encourage à aider les gens à développer la discipline de lire des bons livres chrétiens. Donc, des fois, on fait des études bibliques ensemble, des fois, on lit des livres chrétiens. Mais si on ne discute pas sur une lecture, j'encourage les gens à ce qu'on fasse une lecture en parallèle. Puis des fois, on en discute, des fois, on n'en discute pas. Dans mon cas, souvent, on n'en discute pas, mais je leur dis, OK, ça va, tu avances dans tes lectures, où est-ce que tu es rendu, tout ça. Puis on lit ensemble. Et puis avant de se quitter, on fait deux choses. On s'entend sur des choses qu'on veut travailler pour la prochaine rencontre, puis on s'encourage. Puis on s'encourage. Puis on s'encourage. Puis ça, c'est mon rôle, premièrement, d'encourager. d'apporter une vision remplie de foi. C'est mon mandat. Puis si c'est un combat pour vous, je vous l'ai dit, mon passage à moi, c'est Philippiens 1. Allez étudier, méditer, mémoriser Philippiens 1 jusqu'à temps que vous arriviez devant des gens pour qui vous n'auriez pas naturellement la foi. Vous retrouvez la foi à cause de Philippiens 1 parce que vous les regardez en Jésus-Christ. C'est bon? Puis on termine la semaine prochaine le cours. D'accord? On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, merci pour ces beaux baptêmes auxquels on va assister ce matin. On va te demander de bénir cette matinée, Seigneur. Soit avec nous, soit avec ton Église, soit avec chaque personne qui vont venir tantôt pour chanter des louanges, pour entendre le message de la parole, pour rencontrer des gens, pour entendre les témoignages de conversion, pour assister à des baptêmes, Seigneur. Viens, Seigneur, et parle puissamment au milieu de nous ce matin. Viens nous rencontrer, nous t'adorons, nous t'aimons, c'est en Jésus que nous prions. Amen.